Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Alors toi qui as droit à M6 et BFM, qu'est-ce que ça fait de se faire interviewer par une pauvre radio locale ?
Ah, c'est une certaine satisfaction au final, c'est un peu une reconnaissance, voire l'apogée de mon art.
Enfin libre ?
Enfin libre, oui.
Clément, bonjour.
Bonjour.
Clément comment ?
Clément Asdam, mais ici, c'est plutôt le petit bonheur.
Car nous
sommes dans le monde du petit bonheur.
Du petit bonheur ? Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est ?
Le petit bonheur, en fait, je fabrique des trucs de tous les jours pour nous accompagner avec du bois du coin. Donc, c'est du tournage, de la sculpture, donc ça va de la cuisine, mais ça peut accompagner jusqu'au lit. Ça. Il nous accompagne de partout, le bois, pour remplacer le plastique.
Jusqu'au lit ? Donc, tu fais des godemichés ?
Eh ben oui, nous avons une zone érogène du petit bonheur. Donc ici, nous avons effectivement des godemichés, des petits plugs. Nous avons aussi la spoonier, qui est née du jeu de mots. Car spoon en anglais, cuillère, spoonier, se pognier.
En deux mots, en français.
Voilà, c'est ça. Pour accompagner la vulvière, évidemment. Mais voilà. C'est pas que du érogène, effectivement.
Donc au départ, ton idée c'était quoi ? C'était de faire des ustensiles de plutôt de cuisine, utilitaires ?
Au départ, j'ai plutôt commencé à faire des trucs pour moi, et puis j'ai vu que ça plaisait pas mal, du coup je me suis dit, je vais essayer d'en faire un peu pour les autres aussi.
Comment tu viens à ça ?
Moi j'ai quand même pas mal été, on va dire, autodidacte. Je suis passé par la menuiserie, mais... Je suis pas allé à l'école du bois, j'ai appris sur le tas et j'ai un CAP en candidat libre. Et après, sur ça, j'ai dérivé en squattant pas mal l'atelier d'un copain qui est tourneur depuis plus de 10 ans. Et du coup, le fait d'avoir un atelier avec toutes les machines, c'était vachement pratique pour apprendre à faire plein de choses. Et c'est venu comme ça, du coup, au fur et à mesure, selon mes envies, mes humeurs, je fais les objets que j'ai envie... Et puis après, on voit s'ils partent ou s'ils restent sur le stand pendant des années.
Alors tu disais que tu as commencé pour toi et tu nous parlais d'abandonner le plastique. Du coup, qu'est-ce que tu as commencé à fabriquer pour toi ? Qu'est-ce que tu as remplacé ?
D'abord, pour moi, ça a été surtout la vaisselle, ouais. Je suis parti sur la vaisselle. Après, je me suis dit, j'ai pas envie d'être un spécialiste de la vaisselle en bois. Et j'ai cherché des trucs différents à faire. Des marque-pages, des fleurs, des peignes, des montres nombriles ou autres trucs comme ça.
Ouais, donc du coup, par progression, petit à petit, et t'as remarqué d'ailleurs que tout était remplaçable du coup en bois ou...
Tout est remplaçable, c'est relatif, mais par exemple si on prend cet objet-là, à la base c'est venu d'une commande.
Décris-le parce qu'on est à la radio.
Oui, pardon. Donc vu qu'on est à la radio, là on est en face d'une pelle à cahier. Donc c'est un objet qu'on utilisait traditionnellement pour faire les fromages à pâte cuite. Donc plutôt les grosses meules dans les gros chaudrons. Qui a été remplacé maintenant beaucoup par le plastique, un peu par l'inox aussi, mais on m'en avait commandé deux pour quelqu'un qui faisait du Beaufort. Et il m'a demandé d'en faire. Il m'a dit, trouve des exemples, à part des dessins dans des livres et des vieilles ruines dans des musées. J'ai pas trouvé grand-chose, ouais. Donc du coup, c'était un peu pour remplacer sa pelle en plastique qui m'avait demandé ça, ouais.
Par ailleurs, c'est une très grosse pièce. Explique-nous un peu, tu pars de quoi ? C'est toujours une grosse bûche ou...
Donc en gros, sur mon bois, j'ai deux démarches. Soit c'est du bois sec que j'ai acheté à la scierie. Donc après, j'essaye de choisir des scieries où ils font traditionnellement sécher le bois naturellement, sous hangar, quoi. Soit sinon, je travaille aussi en bois vert. Donc là, par exemple, c'est du bois vert. Pour avoir une pièce de cette taille-là, j'ai pas vraiment le choix. Là, par exemple, c'était une grume qui devait faire 40 cm de diamètre à peu près. Et là, c'est du hêtre, du coup. Donc après, les démarches sont différentes. Quand je travaille en bois sec, ça me permet de faire mes objets et ils sont directement finis. Alors que quand je travaille en bois vert, généralement, je prédébite mes objets. Plus ils sont fins, plus ils pourront se déformer au séchage. Contrairement à ce qu'on peut penser, le bois, il va être beaucoup plus résistant en étant fin que épais, car il est souple et il peut amortir les chocs. Et donc du coup, en moyenne, pour quelque chose que je travaille en bois vert, il va me falloir 6-7 mois de séchage en atelier pour pouvoir après les finir.
Et alors tu disais travailler des essences locales.
Ouais, c'est ça. Bah, j'ai beaucoup de fruitiers. Là, par exemple, sur mon stand, on retrouve du poirier, du prunier, du pommier, du noyer. Après, je travaille aussi le frêne, le hêtre, un peu d'érable. Mais oui, principalement du bois qu'on trouve dans nos montagnes, quoi.
Alors, parlant technique, quel est le bois le plus facile à travailler, le plus dur ? Peut-être est-ce que certains bois sont plutôt destinés à tel ou tel objet ? Comment tu nous expliquerais
pour,
ça
Pour l'alimentaire, je vais quand même choisir mes bois. Oui, je ne vais pas prendre n'importe quel bois pour pouvoir le faire, parce que ça a quand même vocation à finir dans notre bouche ou dans la gamelle. Après, sur les autres objets...
Et donc
il y a des bois toxiques, donc du coup, okay. Par exemple, je partirai pas sur du bois exotique parce que je connais pas les caractéristiques et donc du coup, je sais pas ce qu'il donnera.
Mais t'as des bois toxiques ici qu'on peut trouver ?
Il y a des bois toxiques, oui. Bah, par exemple, si on fait un truc en if, ça risque de pas très bien se passer. Si, déjà, globalement, l'if, quand on est à côté, c'est pas forcément un bois qui est très sain pour nous. Donc, dans notre gamelle, ça correspondra pas, quoi.
Donc faut avoir ce genre de connaissances là, tu vois, que moi par exemple je n'ai pas.
Ouais.
Donc je me disais le bois globalement ça va, on va pas être.
Bah alors le bois, ouais, c'est ça.
C'est plus des goûts, on se dit que les épineux vont être hyper goûteux.
Ça a été beaucoup ça au niveau des bois pour l'alimentaire, ça a été beaucoup aussi des retours de là où j'étais avant. Avant du coup, j'étais installé en Chartreuse. Et donc du coup, j'allais beaucoup dans les Bauges où il y a traditionnellement l'argenterie des Bauges. Donc ça, c'est une vieille histoire où, en gros, un seigneur devait recevoir un grand notable, mais s'était fait voler toute son argenterie. Et donc, du coup, à la dernière minute, était allé voir les artisans et avait fait « Fabriquez-moi de l'argenterie !» Et donc, du coup, ça avait été fabriqué avec de l'érable. Et donc, du coup, beaucoup d'anciens m'ont parlé que, bah oui, les fruitiers n'étaient pas spécialement utilisés pour les ustensiles, mais parce qu'on essayait de garder les fruits d'abord avant de tomber l'arbre pour récupérer le bois, mais que les fruitiers étaient quand même globalement utilisés pour faire ces objets-là. Et puis les fruitiers font des fruits, donc globalement, normalement, ils créaient pas de choses nocives en eux, vu qu'ils font des trucs comestibles pour nous après.
Et sur les bois les plus simples, les plus durs à travailler, qu'est-ce que toi tu préfères ?
Les bois les plus simples et les plus durs à travailler, ça va dépendre de l'outillage, ça dépend si c'est plutôt du tournage ou de la sculpture, donc parce que l'approche est différente. Mais globalement, si par exemple on prend un poirier ou des bois comme ça, c'est des bois ou du buis, c'est des bois qui sont denses, donc du coup c'est des bois qui sont faciles à travailler parce qu'on n'aura pas d'histoire de fil contre fil. Là je le travaille, mais non, du coup ça relève une fibre. Donc plus on a un bois homogène, plus il sera facile à travailler.
C'est quoi les outils ?
Les outils, ça va dépendre. Moi, après, j'ai appris pas mal sur le tas, et on va dire avec de la machine électrique. Donc, je fonctionne beaucoup à la machine électrique. Je fais pas forcément du travail à la gouge manuelle ou des choses comme ça. Mais en gros, j'ai le tour, j'ai une scie à ruban. À côté, j'ai une chaîne de tronçonneuse qui se met sur la meuleuse pour sculpter. J'ai des râpes qui se mettent aussi sur la meuleuse. C'est beaucoup de petits outillages comme ça, on appelle ça une Dremel, mais c'est une marque, mais un outil comme ça aussi, pour pouvoir avoir plein de différents outillages pour faire plus de la précision, quoi. Mais c'est beaucoup plein de petits outillages comme ça, du coup.
Et alors, tu nous as dit que tu étais parti sur de la vaisselle, puis tu as dérivé sur plein d'autres objets. On a commencé par le Godemiché, mais on peut aussi voir... un bon gros fuck en sculpture. En fait, qu'est-ce qui après t'a inspiré ? Vers quoi t'es parti ?
Je fonctionne aussi pas mal avec les jeux de mots, du coup. Donc du coup, là, ce doigt qu'on voit face à nous, en fait, c'est parce que le bois d'honneur plutôt que le doigt d'honneur. Donc du coup, si j'ai le jeu de mots, je vais le faire. C'est un peu comme je disais pour la spounier, Ici, on peut apercevoir un beau fessier, mais celle-ci n'est qu'en fait qu'une cuillère, une cuillère. Voilà, je fonctionne beaucoup au jeu de mots aussi. Quand je les ai, je les fais généralement.
et comment c'est reçu ?
Oh, globalement, je pense que les gens, ils aiment bien arriver dans mon petit monde quand ils arrivent sur mon stand. C'est bien pour moi parce que vu que je suis pas commercial pour un sou, mes objets ils se vendent tout seuls, ils sont autonomes. Comme ça, au moins, moi j'ai pas besoin de faire du blabla pour inventer des choses et vendre des choses à n'importe qui, n'importe comment.
Et au début, t'étais quelqu'un de rigolo ou pas ?
Ça, je saurais pas dire. Chacun a ses jugements face à rigolo ou pas rigolo.
Ouais, mais tu faisais rire les gens autour.
Ouais, ça dépend, oui. Ça peut.
Bon, est-ce que tu veux bien qu'on passe à un moment où tu vas devoir, du coup, nous décrire un peu les objets et surtout à quoi ils servent ? Parce qu'en fait, si tu veux bien, je prendrai une photo un peu pour voir ce qu'on voit sur ton stand. Mais il y a des choses dont on ne sait pas tout de suite à quoi elles vont servir, en tout cas moi.
Ouais, j'explique souvent un peu. Justement, c'est un peu ma phrase d'accroche. Bonjour, s'il y a des questions à quoi ça sert ou quel bois c'est, je suis là.
Bien, à quoi ça sert et à quel bois c'est ?
Ah, généralement, je demande aux gens de montrer quelque chose.
Alors je vais montrer ça, tiens. Alors ça qui donc n'est pas radiophonique, hein, si je montre ça.
Ça, du coup, c'est un peigne. Pour se coiffer. Moi, j'en ai pas spécialement besoin. Je suis mal coiffé, mais il y en a qui se coiffent.
Un peigne pour gros cheveux ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, c'est des grosses dents, mais ça reste tout aussi efficace et ça a tendance à moins arracher les cheveux que des petites dents. Et vu que c'est du bois, moi, je cherche à garder quand même une solidité dans le temps, donc je fais des dents un peu plus conséquentes.
Attends, c'est intéressant ce que tu nous dis. En fait, plus les dents sont petites, plus on casse les cheveux ?
Je suis pas expert en peignage. C'est les retours que j'ai pu avoir sur le stand. Mais globalement, j'ai des bons retours sur les peignes, ouais.
Ceci.
Alors ceci, c'est l'alternative de ceci. Vous avez vu à la radio ?
Ouais.
Ça, moi, j'appelle ça des griffes à salade. Normalement, mes griffes à salade, je les fais avec des longs manches, comme on a l'habitude de voir des couverts à salade. Et puis là, j'ai fait une alternative un peu plus compacte, où on en prend dans chaque main, qui vient faire une extension de main, pour pouvoir servir la salade avec les mains, mais sans salir les mains, pour être aussi civilisé devant les invités. Des choses comme ça.
Voilà, donc comment tu nous le décris, tes griffes à salade, elles sont de forme un peu...
Sur les fourchettes, ouais, on me dit souvent que ça fait un effet un peu patte d'ours sur la forme. Je voulais pas faire des formes droites, j'ai un peu du mal à faire des choses droites. En fait, je crois que j'ai jamais appris à faire des choses droites, du coup il y a toujours un peu de la forme, c'est plus facile pour moi.
Voilà, et puis c'est assez doux en fait, finalement, ce qu'on voit de ce que tu fais, c'est arrondi, c'est...
On me dit souvent que c'est des formes, que c'est très organique ce qui ressort de mon stand. Des formes organiques, ouais, c'est ça.
Et organique, donc tu nous parlais aussi des matières. Quel bois, du coup, tu as utilisé un peu, là, on voit...
Là, celui qui sort rosé, par exemple, c'est du poirier. En plus sombre, on retrouve du noyer. Après, ici, on a du merisier.
Donc, dès que c'est clair... Ça.
Le merisier, il va ressortir plus orangé. Après, ça va dépendre des merisiers, où ils poussent, comment, quelle taille. Il y en a qui vont ressortir plus rosés que d'autres. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, c'est un merisier qui est plus orangé, ouais.
Alors là, tu nous présentes des spatules.
Voilà, c'est ça. Là,
pour
c'est...
touiller dans sa casserole.
C'est des spatules. Il y en a un peu de toutes les formes, de toutes les tailles de... sur les spatules, je suis un peu parti sur le principe que c'était comme des chaussures. Vu que je fais pas des choses droites, on a tous chacun notre manière de prendre les choses. Et donc du coup, j'ai fait différentes tailles, différentes formes pour que ça convienne à tout le monde. Généralement, je conseille de les essayer, comme les chaussures en fait.
T'as pas la pure à crêpe, la bien plate ?
Moi, j'ai des platules. Les platules, c'est une spatule plate. Après, aller plus fin que ça, c'est fragiliser le bois. Donc du coup, je suis éternelle jauge entre travailler une finesse, mais je fais pas des objets jetables, donc c'est pas mon objectif. Donc du coup, je jauge entre la finesse, mais garder quelque chose de solide. C'est un peu comme sur tous mes objets, si je vois la moindre petite fente, bah, c'est un objet que je vais enlever parce que cette petite fente va grandir à l'utilisation. Et comme je disais, je fais pas du jetable, je cherche à faire des choses qui durent dans le temps. Donc
une fente, un nœud, une
fente, un nœud, l'objet il part, il sera pas sur mon stand quoi.
T'as beaucoup de pertes comme ça, tu pars dans une pièce et puis tout d'un coup tu trouves, t'as déjà un certain nombre d'heures passées dessus et hop, en fait, bah non, celle-ci il faut l'acheter. Ça t'arrive ?
Généralement, j'arrive à l'anticiper là où je vais avoir quand même plus de pertes. Après, des fois, je le finis en me disant bon bah ça ira à la cuisine, mais généralement
ta cuisine.
Voilà, c'est ça.
Que tous les artisans t'aient plein de pièces ratées, voilà, invendables.
C'est ça. Et par contre, là où j'ai pas mal de pertes aussi, c'est comme je disais, je travaille aussi en bois vert. Et donc du coup, le principe du bois vert, c'est de le rendre plus fin possible pour pouvoir lui permettre une déformation au séchage. Mais par exemple, il y a des bois qui sont un peu plus fourbes que d'autres. Là, par exemple, moi, sur mon stand, j'ai du prunier. Du coup, le prunier est un bois très fourbe au séchage. Et ça m'est arrivé, par exemple, sur une série que j'avais faite, de perdre 50% de ce que j'avais travaillé, quoi.
Alors, fourbe, qu'est-ce qu'il fait ?
Eh bah, ben, il fend.
Il fend, voilà.
Il fend. Et donc, du coup, moi, j'aime pas la fente. Donc, du coup, bah, c'est perdu.
C'est perdu. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, là, on est en face d'un losange avec un petit trou. Mais ça, ça s'appelle un lioli. Le principe du lioli, c'est qu'on va l'enfiler sur le pouce. Et une fois qu'on est bien installé dans son hamac, ça permet de garder les deux pages ouvertes.
Oh.
Et fini la galère de passer de
donc tu peux lire le livre. Là, c'est pour lire quand t'es dans ton lit.
C'est ça.
Avec une main posée.
Voilà, c'est
et
ça.
L'autre qui
tu peux garder la main sous la couette si c'est l'hiver, il fait froid.
Et donc, avec un seul pouce, tu peux bloquer tes deux pages.
C'est ça. C'est le principe du lioli.
D'où ça t'est venu, ça ?
Ça, c'est une copine qui m'avait commandé ça. Elle m'avait fait le petit dessin. Et puis, j'ai bien aimé le truc. Et du coup, j'en ai refait d'autres.
Non, mais c'est délire. Donc, c'est son idée ou tu crois que c'était un truc qui existait déjà ?
Ça, je saurais pas te dire. Je sais pas. Peut-être que ça existait. Peut-être pas. J'en sais rien. Mais.
Et ça fait partie des objets que t'es obligé un peu de décrire aux gens, non ?
Et bah ça, je me retrouve souvent à faire la démo, mais je me suis dit qu'un petit dessin avec quelqu'un qui a un pouce en l'air, c'était pas forcément très explicite. Du coup, bah, je préfère faire la démo. C'est mon moment commercial de l'interaction.
Écoute, je trouve que tu t'en sors pas si mal en commercial. Alors, t'es installé où maintenant que t'as quitté la Chartreuse ?
Et bah maintenant, du coup, j'ai installé un atelier que j'ai fini il y a un mois, qui est sur la commune d'Aspremont.
D'où ta présence à Tous en Bottes, c'est le moment de le citer. Comment est-ce que t'es venu à cet événement ?
Et bah c'est juste à côté, et puis j'ai vu une affiche, et puis j'ai fait « Ah, je vais aller voir ce que ça en dit !» Et puis, pour moi, c'est quand même pas mal de faire un marché pas très loin de l'atelier, ça me change que d'aller vachement plus loin.
Ouais, ça veut dire que d'habitude, oui, où est-ce que tu vends ?
Et bah, pour le moment, je fonctionne quand même pas mal aussi sur mon réseau d'artisans que je m'étais fait en Savoie. Après, là, par exemple, dans 2 semaines, je suis 3 jours à Lyon. Quelques semaines plus tard, je suis à Grenoble. Donc, du coup, ça fait vite un peu de route quand même.
Ouais, donc, qu'est-ce que tu choisis comme lieu ? Est-ce qu'il faut que ce soit engagé ? Je sais pas.
De ce que j'ai pu voir quand même globalement avec le bois, c'est que dès que je m'éloignais un peu des montagnes ou que je partais un peu trop vers le sud, et ben, c'était un peu plus compliqué à faire un bon marché, on va dire. Si je passe la ligne de Sisteron, les gens ne veulent plus que de l'olivier et rien d'autre. Ce que j'ai pas, du coup, sur mon stand. Et puis, si je m'éloigne des montagnes, bah, je sais pas, apparemment, il y a un lien avec les gens, la montagne, le bois, quoi. Et donc, du coup, vu que, globalement, quand même, je fonctionne aussi avec le tourisme, ça fait des combos, des fois, qui marchent bien, le fait d'être à la montagne avec du tourisme, bah, ça peut faire tourner un peu la boutique.
Et en parlant de tourisme, est-ce que tu as été repéré ? Un certain nombre de tes outils peuvent être, par exemple, dans des restaurants, dans des endroits. Est-ce que ça a plu aussi à des professionnels, de la cuisine, par exemple ?
Alors, au niveau cuisine, les restos sont un peu sur la pointe des pieds parce que bah, le bois, il aime pas le lave-vaisselle. Et les cuisiniers, eux, ils aiment bien leur plonge. Donc, du coup, bah, ça fait pas forcément un combo qui marche très bien. Ouais. Donc j'ai pas eu spécialement pour le moment de trucs à ce niveau-là. Après, oui, sur la plupart des marchés où je vais, il y a... on me propose une boutique de créateurs ou des choses comme ça.
Et Clément, du coup, oui, t'as aussi quand même un certain nombre de sculptures, je le disais un peu tout à l'heure, mais des fleurs, des éléments de déco, des limaces. Là, c'est pareil, t'es parti sur des commandes, c'est des formes, c'est qu'est-ce qui t'inspire pour développer des sculptures comme ça personnelles ?
Par exemple, les limaces, et je me suis dit, j'ai envie de faire des limaces en bois, donc du coup, j'en ai fait. Et les fleurs...
Ça marche, sans déconner, parce que les limaces, putain, on n'a pas envie de les voir normalement. Son jardin fait chier, tout ça.
Je me suis quand même retrouvé, à force, je me rends compte que globalement, on va dire, tout ce qui est animal, insecte, je me retrouve à faire les trucs que les gens, ils aiment pas. J'ai des serpents, j'ai des limaces.
Et toi, tu les aimes ?
J'avais envie de faire ça, et puis au final, les gens, des fois, ils me disent, j'aime pas ça, mais il est mignon, et du coup, je vais te le prendre quand même.
Ah putain, c'est génial. J'aimais pas les limaces avant de voir les tiennes. C'est vrai.
Mais voilà, puis du coup, vu qu'elles... j'essaye de faire de l'utilitaire, des fois, je me suis dit, la limace, elle va servir à quoi ? Donc du coup, je lui ai quand même mis un petit aimant dans son corps. Comme ça, elle peut être aimantée un peu par-ci, par-là, si on veut tenir un bout de papier, ou si on veut qu'elle se balade sur un mur.
Ah, c'est une limace magnète.
Exactement.
Ouais. Bon, là, du coup, si, elle a une utilité de frigo.
Voilà, le frigo ou autre.
Ou autre.
Voilà.
Et quand je te disais, où est-ce qu'on te trouve, dis-nous, on peut venir te visiter à ton atelier, as-tu un site internet, est-ce que tu vends en ligne, est-ce que ce genre de choses ?
Alors, moi, personnellement, je suis pas visitable. Après, j'ai mon atelier. Bon, après, c'est mieux de prévenir, parce que je suis pas toujours non plus dans mon atelier. J'ai une vie parallèle aussi.
Comment on te prévient ?
Sur Internet, on retrouve mon site Internet. J'ai mon numéro de téléphone qui traîne aussi avec mon site Internet ou dans les moteurs de recherche. J'ai une page Facebook avec quelques photos. Bon, je suis pas spécialement réseaux sociaux, mais on m'a dit que c'est comme ça que ça fonctionnait maintenant, l'artisanat. Donc, je me tiens à la page.
Et c'est vrai ?
Je sais pas. J'ai remis des photos un peu ces derniers jours parce que je pars à la ville pour vendre. Donc, du coup, la ville, ils aiment bien les réseaux sociaux. J'ai pas craqué pour faire un Instagram, mais j'ai quand même fait un Facebook.
Alors donne-le-nous ton site internet.
C'est www d'abord, après le petit boisneur, donc le PTIT bois NHEUR, c'est bonheur, mais on a calé un petit bois au milieu, .com.
Et est-ce que tu trouves que t'es cher, Clément ?
Alors, ça va dépendre des points de vue. En fait, ce qu'il y a, c'est que de nos jours, de ce que j'ai pu voir, c'est que globalement, les gens ont perdu une certaine valeur des choses. À tout chercher le discount moins cher, à avoir le plus d'objets pour le moins cher, et du coup, je vais paraître cher pour des gens, des fois. Par exemple, une spatule à 25 euros. Quand même, avant, quand on achetait un meuble, c'était un investissement. Et donc, du coup, maintenant, avec le IKEA, ça représente rien du tout. Et
c'est un investissement qu'on pouvait transmettre de génération en génération.
C'est ça. Et donc,
on peut transmettre ta spatule de génération en génération ?
Il faudra demander aux générations futures, mais... Pour le moment, j'ai 4 ans d'activité et ce que j'ai fait, j'ai jamais eu de mauvais retour pour le moment. Donc je pense que tout se passe bien. Après, l'objet est fait pour durer. Après, les aléas de la vie font que des fois, ça se passe mal, hein, quand ça finit dans le feu ou des choses comme ça. Mais, mais après, globalement, l'histoire de cher ou pas cher, je peux paraître cher pour certaines personnes. Après, moi aussi, c'est un équilibre où c'est l'exercice des prix, quoi. C'est pas facile. Comment vendre l'objet ? Est-ce que je le mets à ce prix-là ? Est-ce qu'il partira ? Ou est-ce qu'il faut que je le descende un peu ? Je m'y retrouverai pas, mais j'en vendrai peut-être plus. Et c'est un exercice pas facile, mais...
C'est la question qu'on peut poser aux artisans, en fait. Comment tu le fixes, ton prix, par rapport, bon, d'abord à une matière première, peut-être. D'ailleurs, comment tu te la procures, cette matière première? C'est du don, ou est-ce que tu achètes ton bois? Est-ce que tu le trouves? Est-ce que tu le glanes? Et puis après, le temps que tu y passes. Il y a un moment donné où il faut se rémunérer, on y pense, à l'heure...
Oui, c'est ça, c'est un ratio à l'heure. Après, globalement, bah là, oui, moi, sur l'artisanat, je vais, globalement, sur une journée, je vais être à une journée de production, je vais être allé à 10, 15, des fois 20 euros de l'heure, mais bon, il faut encore vendre l'objet derrière, donc du coup, au final, je ne suis pas si cher que ça.
Et le bois, tu le trouves ?
Et le bois, du coup, le bois, comme je disais, je travaille bois vert, bois sec. Donc le bois sec, c'est acheté en Syrie. Donc du coup, je l'achète. Bah, après, là, les prix sont en train d'exploser en ce moment. À l'époque, moi, j'achetais du noyer à 1000 euros le mètre cube. Maintenant, on le retrouve aux alentours de 3000 euros le mètre cube. Le bois vert, bah, ça va dépendre. Des fois, on me le donne. Des fois, je le troque contre des objets. C'est souvent ce que je fais. Si on me propose un pommier dans un jardin, bah, moi, je vais proposer de faire des objets à partir du pommier des jardins. Comme ça, ça fait un petit souvenir de l'arbre et tout le monde s'y retrouve. C'est le principe du troc.
Est-ce que tu veux une parole libre maintenant ?
Salut le Diwa. Voilà, si vous voulez... un petit artisan bois sur vos marchés, moi je suis juste de l'autre côté du col, je suis pas du Diwa, mais ça marche aussi, hein. C'est juste un col entre nous deux.
Bah, tu pourrais essayer.
Oui, c'est vrai, mais ça m'est arrivé des fois de demander, et puis on me disait, t'es du Diwa toi? Moi je disais, ben non, je suis de l'autre côté du col. Ah bah non, ça marche pas, il faut que tu sois du Diwa. C'est pour ça, il faut s'ouvrir aux gens de l'autre côté du col.
C'est la première fois que j'entends ça, mais je le note. Et est-ce que tu veux un morceau de musique, ton morceau de musique préféré à la suite de cette interview? Travailles-tu en musique d'ailleurs?
Je travaille, oui, j'écoute beaucoup de musique. Généralement, j'écoute quasiment, oui, tout le temps de la musique quand je travaille. Ça permet de cacher un peu le bruit des machines, et puis bah, c'est quand même plus agréable aussi.
Et donc, tu travailles avec quel type de musique?
Et ça va dépendre de mes envies, mes humeurs.
Quand on fait des godes.
C'est la radio qui choisit.
Radio alors.
Oui, la radio.
Quelle radio?
Radio Diwa.
Non, mais tu peux. Ah non, mais attends, c'est pas vrai en plus.
Non, en vrai, ça dépend. Je tourne de radio, mais beaucoup des, on va dire, des radios internet avec. Des playlists.
Vas-y, cite-en.
Là, en ce moment, je suis sur Alternative Radio, du coup. J'écoute ça.
Donc, du coup, t'as pas un morceau privilégié que tu voudrais qu'on écoute maintenant?
On a qu'à écouter Petite Fleur.
De
Sydney Beckett.
Merci, Clément.
Une bonne journée.